Mike. J'ai passé plus de temps sur la mer que sur la terre, dans ma vie. Je vais difficilement dans les montagnes, c'est pas que je les admire pas, je les trouve superbes. Mais je ne ferai pas vivre dans une montagne. Dès l'instant qu'il y a une barrière, il faut que je la batte. Et ça, c'est le sentiment qu'on éprouve sur la mer. Dès qu'il y a des vagues, vous les acceptez, parce qu'on suit les vagues, chaque vague qui vous creuse s'élève les prochains mètres et vous êtes debout sur la mer. Jamais la vue s'arrête sur la mer parce qu'il y a toujours du vent, parce que les fluides se déplacent. Et qu'en étant porté par les fluides, il y a toujours l'instant où vous êtes au-dessus de l'environnement.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette semaine, on va suivre le sillage profond, laissé par une femme qui, très tôt, est montée sur les bateaux de pêche, en quête d'horizon et de science, afin de donner à sa manière une voix aux océans et à ceux qui les peuplent ou en vivent. Cette femme que vous venez d'entendre, c'est Anita Conti, née à l'aube du XXe siècle, une pionnière de l'océanographie moderne, autodidacte. Une photographe, vidéaste et écrivaine française qui va sillonner les mers du monde et consacrer sa vie à témoigner des dégâts de la surpêche mais aussi de la noblesse, des piroguiers africains, des marins pêcheurs ou Terre-Neuve, ces aristocrates de la mer qui jadis traquaient la morue sur les bancs de Terre-Neuve ou dans les mers du Nord dans des campagnes de pêche héroïques, inimaginables de nos jours. Ce n'est donc pas un hasard si la ville de Fécamp, jadis premier port morutier de France situé en Normandie, lui a récemment consacré une grande exposition qui vient de s'achever. Au musée des pêcheries de Fécamp, dans un ancien bâtiment industriel reconverti où Aurélien Arnaud, son conservateur, nous a accueillis.
On compte jusqu'à à peu près 5 étages. Le plus haut niveau, c'est le belvédère. On est sur environ 4000 m2, donc ancien bâtiment des pêcheries de Fécamp avec cette ancienne usine de sécherie de morue, avec ce belvédère ajouté en plus, en fait un bâtiment maintenant emblématique et considérable à l'échelle de la ville, c'est sûr.
Et puis idéal finalement pour parler d'Anita Conti, puisqu'on est, vous l'avez dit, dans une ancienne sécherie de morue. Et elle en a suivi des campagnes justement de pêche.
Elle en a suivi quand même plusieurs en effet, et notamment deux au départ de Fécamp. Une en 1939, où elle embarque à bord du Viking, et une en 1952, à bord du Bois Rosé. Donc le lien entre Anita Conti et Fécamp est indéniable, et c'était avant tout pour nous une forme d'hommage qu'on rendait aussi à la Dame de la Mer, ici aux pêcheries. Donc elle a toute sa place, en tout cas, ici au musée, à Fécamp.
Et puis avec la mer juste en face, là c'est le port, on est sur le Grand Quai.
On a une très belle ouverture avec le Quai Bérigny, avec le port, avec la mer au loin, donc c'est là un emplacement en tout cas idéal pour parler en effet des campagnes de pêche, des morutiers, des chalutiers, et puis de la vie d'Anita Conti qui a passé trois quarts de son temps en fait à bord. Donc c'est un endroit privilégié en tout cas pour parler de la vie de cette femme qui reste encore assez méconnue aux yeux du grand public en tout cas.
En fait, en dehors des ports de la façade atlantique ou de la Manche, comme à Fécamp en premier lieu, ou à Lorient, ou à Douarnenez où elle est décédée, et c'est quelqu'un, malgré sa vie incroyable et tout ce qu'elle a pu accomplir pour l'océanographie ou en tant que lanceuse d'alerte, elle était pratiquement inconnue.
Nadège Sébille, attachée de conservation et co-commissaire de l'exposition Anita Conti, la dame aux semelles de vent.
À Fécamp, c'est un lycée maritime quand même. Il y a une rue, il y a le navire du lycée que tout le monde voit tous les jours sur le port, s'appelle Anita Conti. Mais je pense que même à Fécamp, les gens ne se rendaient pas compte de la vie incroyable qu'elle a menée. Elle est quand même née en 1899. C'était une femme qui était vraiment très libre par rapport à sa date de naissance, par rapport à ses contemporaines. Et c'est assez fou. Elle s'est prise par la main toute seule et elle a eu une vie incroyable jusqu'à la fin de sa vie. C'était passionnant. Alors, on ne pouvait pas parler de tout dans l'exposition, c'est pour ça que ça commence par cette grande frise chronologique, pour parler de l'océan, de sa vie, pour que les gens puissent aller aussi plus loin.
Et puis aussi pour que les gens de Fécamp se rendent compte qu'il y a un lien très fort entre elle et cette ville, finalement.
Oui, donc Anita, elle a passé beaucoup de temps à Fécamp. Donc dès sa plus tendre enfance, elle passe avec sa famille ses étés à Yport, donc le village juste voisin de Fécamp. Elle embarque avant même d'avoir 10 ans sur les caïques yportaises avec les pêcheurs. Donc déjà, elle est dans le feu de l'action avec la pêche locale. Et puis, dès les années 30, on a des manuscrits d'elle. Elle écrit pour des journaux, notamment féminins comme Ève. Et elle vient à Fécamp sûrement vers 1933, donc son manuscrit n'est pas daté, mais elle embarque à 3h du matin avec des pêcheurs de maquereaux. Et elle écrit tout un article sur la pêche au maquereau à Fécamp, donc dès les années 30. On voit dans ses petits agendas qu'elle note des choses à propos de Joseph Duhamel, donc l'armateur des pêcheries de Fécamp, qui donne son nom au musée de Fécamp aujourd'hui, les pêcheries. Et c'est sûrement comme ça qu'elle arrive à embarquer en 39, donc sur le chalutier Viking, en tant que membre donc de l'Office scientifique et technique des pêches maritimes. Donc là, elle trouve un armateur qui accepte de recevoir une femme à bord pendant plusieurs mois. C'est quand même déjà pas rien. Et puis, c'est encore Joseph Duhamel qui, en 52, accepte qu'elle embarque là pour plus de 5 mois sur le Bois Rosé. Donc on voit que Fécamp, ça dure plus de 20 ans, où elle vient assez souvent, en fait.
En vérité, je n'ai pas eu à aller vers la mer parce que le hasard de ma naissance dans une famille de 2 jeunes gens qui aimaient la mer, mon père commençait sa médecine, ma mère était là, très jeune maman, et à peine née, j'ai été emmenée sur le bord de la mer et mon père et ma mère ont eu l'amusement de me jeter dans la mer, tout bonnement, comme on fait pour les bébés nageurs. Ben, que fait une petite grenouille? Elle nage. J'ai donc fait comme une petite grenouille.
Laurent Géraud-Conti, vous êtes le fils adoptif d'Anita Conti. Vous l'avez accompagnée pendant les 10 dernières années de sa vie et vous continuez depuis jusqu'à aujourd'hui de porter sa mémoire, son œuvre à la connaissance de tous et de toutes. Anita, là, vient de parler de sa prime enfance, comment finalement elle a été jetée très tôt dans le grand bain de la mer. Quelle a été l'enfance, Laurent Géraud-Conti, d'Anita, née Caracochian au départ, pas Conti? Dans quelle famille a-t-elle grandi?
Son père, donc, comme son nom l'indique, est d'origine arménienne, et il est arménien même, il est médecin, et il passe ses équivalences en France lorsqu'il rejoint la France. C'est une grande famille bourgeoise dans laquelle Anita s'épanouit. Donc on peut imaginer une enfance dorée, elle ne suit pas d'études, elle a des précepteurs, et comme elle vient nous le faire un peu comprendre, ils sont un petit peu avant-gardistes. Son père est médecin, hygiéniste, et donc c'est lui qui a l'initiative de plonger la petite Anita en pleine mer, alors qu'elle est âgée d'à peine de quelques semaines. Et ensuite, donc, on fréquente le littoral pour s'aérer, et on fréquente non pas les premières stations de bain avec les casinos, mais on fréquente les chercheurs, les océanographes. Elle se souvient avoir vu Pierre et Marie Curie dans la bibliothèque de son grand-père, par exemple, avoir fréquenté les jeunes chercheurs sur les premières stations de recherche océanographique à Roscoff, par exemple, ou à Concarneau. Elle se souvient les avoir accompagnés quand elle était enfant. Ça l'intéresse, et elle va prendre goût à ce milieu maritime dès l'enfance.
Tout au long de mon enfance, j'ai vu monter du fond de la mer des paysages. Chaque jour, à la pleine eau, les courbes de terre perdaient leurs détails. Les rochers isolés se couvraient et les bateaux flottaient sans béquilles dans les ports. À ce moment-là, l'île Tomé se réduisait beaucoup et ressemblait à un grand animal couché sur une clarté liquide. Les jours de calme, nous pouvions l'aborder. Puis, l'eau commençait à déraser. Je descendais jusqu'à sa limite. Aux fortes marées, le recul rapide et puissant balançait les grosses laminaires, entraînait des pierrailles et je n'osais plus avancer parce qu'à mes pieds s'ouvraient des trous d'eau verte et tournoyante. chaque rocher devenait une île et la ligne de terre se haussait en s'allongeant vers le large. Elle allait s'y rattacher à d'autres petites terres qui paraissaient être sorties des étendues sableuses abandonnées par les eaux. Tout cela révélait des pays insoupçonnables. Nous étions à l'étal de Jusan, par une puissante marée d'équinoxe, les pieds sur des roches habitées de peuples de mollusques, de crustacés, d'innombrables invertébrés, tous sauvages. Nous étions sur un sol découvert, aux limites du monde humain. Anita Conti, l'océan, les bêtes et l'homme, ou l'ivresse du risque.
Anita Conti, la dame aux semelles de vent, c'est ce qui nous attend quand on arrive dans cette exposition. Et puis il y a cette grande photographie où on la voit, une grande photographie en noir et blanc, où elle est toute joviale. Elle doit avoir, à mon avis, un boîtier d'appareil photo. Et puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle est sur le pont d'un bateau, là. Elle monte une échelle?
Eh bien, c'est Anita qui est accrochée à un bastingage, un pied complètement dans le vide, avec ses appareils photo autour du cou. Elle a un grand sourire, on voit bien ses dents du bonheur, voilà, que Laurent Giraud-Conti aimait tant. Et en même temps, on la retrouve complètement. Cette bonhomie, cette joie de vivre, même dans l'adversité sur un chalutier où franchement personne n'a envie de mettre les pieds à part elle. Elle avait pas froid aux yeux et elle hésitait absolument pas, même parfois, à se mettre en danger pour obtenir les meilleurs clichés. Elle le dit elle-même, elle montait dans les haubans, accrochée comme elle pouvait, simplement avec ses jambes enroulées autour des gréements. Et puis, quand elle est à bord, elle a toujours, son appareil photo autour du cou, et puis des petits carnets qui tiennent dans la paume de la main, en fait, pour pouvoir résister aux éléments, aux embruns aussi. Et elle écrit toute la journée. Elle couvre des feuillets entiers avec son petit crayon à papier. Et on a pu en emprunter pour que les visiteurs puissent se rendre compte comment elle en arrive à devenir une journaliste vraiment pionnière pour l'histoire maritime. Puisque si au début, elle écrit pour les journaux féminins, même des espèces de nouvelles romantiques, très rapidement, elle essaye de leur vendre des choses relatives à la mer, aux océans et à ce qui habite dans les océans. Et en 1934, elle publie une série d'articles assez fous pour l'époque, c'était il y a 90 ans, qui est paru sur 4 semaines dans La République et qui s'appelait « Les richesses marines sont-elles épuisables ?» Déjà, à l'époque, c'est assez fou.
Et là, on peut voir justement une reproduction de cet article.
Voilà, c'est le premier des 4 articles. Donc, il fait grand bruit. Alors, pas tant auprès du grand public, parce que c'est pas du tout des considérations dont on parle à l'époque. Donc, ça passe assez inaperçu. Par contre, tous les scientifiques de l'Office scientifique et technique des pêches maritimes, donc c'est l'ancêtre d'Ifremer aujourd'hui, se penchent sur cette Anita Conti qu'ils ne connaissent pas vraiment et se rendent compte que, pour écrire ces articles, en fait, elle fait des enquêtes de terrain. Elle a écrit plusieurs articles comme ça sur tout un été, sur la route de l'huître, donc elle va sur toute la façade atlantique et elle va à pied de port en port et elle se mêle aux marins et tout ce qu'elle écrit, c'est pas inventé derrière un bureau à Paris. Donc ça plaît beaucoup à l'OSTPM. Et dès l'année suivante, en 1935, elle va faire partie de l'équipe de l'OSTPM pour devenir chargée de propagande.
C'était la seule femme dans cet organisme. Il y avait une trentaine d'hommes avec un conseil d'administration assez pointu, dans lequel il y avait Charcot, par exemple.
Le commandant Charcot.
Le commandant Charcot faisait partie du conseil d'administration de l'Office des pêches. Et parmi ces hommes, une femme.
Anita
Conti. C'est par une conviction très profonde qu'elle arrive à se faire reconnaître par ce milieu-là. Son premier rôle, c'est quand même chargé de propagande, on dirait maintenant chargé de communication. Mais elle déborde largement, et même sur les missions sur lesquelles elle est détachée à bord des navires de pêche, on lui demande quoi ? Échantillonnage, prélèvement des eaux, et elle va plus loin, elle photographie, elle note, elle prend des notes qui vont au-delà du simple rapport scientifique. Et à l'époque, oui, effectivement, l'océanographie est balbutiante. L'océanographie, c'est de la cartographie à l'époque. On découvre les fonds, on découvre que le poisson n'aime pas une zone géographique, mais il aime une température, une qualité d'eau. C'est une banalité maintenant, mais à l'époque, c'est fondamental. Ça permet de comprendre les mouvements des poissons, d'anticiper et de faciliter le travail des pêcheurs.
Pourquoi voyagez-vous à bord des bateaux, Anita Conti?
Peut-être parce que l'océanographie, cette science récente, qui est née de toutes les autres, puisque elle a besoin de toutes les autres pour pouvoir faire des progrès, révèle un monde nouveau, que les animaux marins sont extraordinairement sensibles et qu'en suivant les animaux marins, on remonte presque aux origines de la Terre. Au fond, le sang, ce n'est jamais que du sérum d'animaux marins.
Mais est-ce que vous croyez que d'être à bord ainsi sur des navires de pêche, c'est une place pour une femme?
Oh, je n'y ai jamais songé. Jamais, je pense que personne autour de moi n'y a songé. Je suis tout naturellement à cette place. Et lorsque je veux passer d'un navire sur un autre, ceux de l'autre navire m'accueillent avec déférence, amitié. J'imagine et je ressens que je suis partout, vraiment chez moi, accueillie.
Quand on arrive dans cette exposition, on est tout de suite happé par cette carte. Il y a cette grande carte qui, en fait, représente la première campagne qu'elle fait au départ de Fécamp à bord du Vikings. Est-ce qu'on peut s'approcher? Parce que là, ça nous montre un petit peu le périple qu'ils ont fait.
Donc là, on est en 1939. On part de Fécamp pour une mission océanographique. Donc elle a été recrutée par l'OSTPM, qui est une forme d'organisation scientifique concernant les techniques et pêche maritime. Et elle est en lien avec les armateurs aussi fécampois, notamment la famille Duhamel. Et elle part, en effet, pour 2 à 3 mois de campagne, une mission océanographique, à travers la mer du Nord, mer de Norvège, mer de Barents. Donc là, on est vraiment dans le Grand Nord, on est au-delà de la Norvège. On approche presque du Groenland. Et c'est avant tout une mission scientifique pour faire des relevés, des croquis, de l'échantillonnage aussi, et prendre en tout cas le maximum de notes scientifiques sur l'étude des fonds des océans. Et après, elle revient à la fin du mois d'août, à la veille du conflit mondial, pour après partir vers d'autres aventures. Mais cette campagne illustre bien sa volonté d'être aux côtés des scientifiques et de pratiquer à bord l'étude, l'océanographie en fait, qui la caractérise après tout au long de sa vie.
Ici, sous notre quille, passent des milliers de morues affamées. Elles aussi cherchent, ovaires vides, ventre creux, les animaux souffrent. Leur estomac ratatiné ne contient nulle trace alimentaire. Par bancs immenses, les morues fuient. Comme les morues, les loups sont maigres et affamés. Cette année, le plancton ne se développe pas suffisamment. Et dans les profondeurs stériles, les bancs entiers de bêtes inquiètes cherchent les proies nécessaires à leur vie. Comme les populations humaines d'autrefois, à la recherche des terres plus riches, les bêtes des eaux émigrent et leur formation serrée dévore tout sur leur passage. Anita Conti, carnet viking, 70 jours en mer de Barents.
Elle décrit tout, comme je vous dis, elle a ses petits carnets tout le temps à la main. Et elle écrit et l'ambiance, et ce qui se passe, les querelles, tout ce qui est pêché, tout ce qui est rejeté. Et puis, tout son temps était consacré à l'étude de ce qui était pêché. Parce que je rappelle que sur un chalutier Terre-Neuve, on vient chercher de la morue. Mais en fait, c'est une minuscule partie souvent de ce qu'on relève dans les chaluts. Il y a beaucoup de gaspillage et tout ce qui n'est pas morue, eh ben, on rejette par-dessus bord. Donc ça aussi, elle vient le dénoncer. Et puis surtout, là, en 39, elle est là pour l'étudier. Donc elle fait aussi des croquis. On a des croquis aussi bien des oiseaux marins qui viennent s'échouer, là, comme des guillemots, que les alevins, les œufs, les poux de morue, la morue elle-même, avec des relevés très très précis. Et puis dès qu'il y a autre chose, d'autres animaux marins, elle va faire des croquis aussi. Et même s'il y a des espèces qu'elle ne connaît pas, comme là aujourd'hui on sait que c'est un pycnogonide, donc une espèce qui ressemble à
ce qui ressemble à une araignée,
qui vit vraiment dans les fonds marins, même si elle, là, comme ça, sur le bateau, où elle n'a pas de documentation, elle ne sait pas ce que c'est, elle va le décrire parfaitement, le colorier dans les couleurs telles qu'il est à la sortie de l'eau. et puis le décrire comme elle peut avec ses mots. Et donc il y a la latitude, la longitude, l'heure à laquelle c'est pêché. Donc c'est encore très précieux pour la science aujourd'hui. Et voilà, même si ça n'a pas de nom scientifique sur le moment, voilà, c'était dans les filets du Viking en 39.
À l'été 1939, alors que le Viking rentre au port, la guerre gronde. Et quand l'Europe bascule, Anita prend part à des campagnes de déminage en mer du Nord et dans la Manche, une première dans la marine nationale française qui jusque-là n'avait jamais admis de femmes sur un navire militaire. Auparavant, dans les années 30, Anita partageait sa vie entre l'étude de la mer et la reliure d'art, une activité qui l'avait rendue célèbre dans le Paris des lettres des années folles. Elle était alors une femme mariée au diplomate Marcel Conti, mais très vite, l'appel du large sera plus fort et le couple va se séparer sans jamais divorcer. À ceux qui lui demandaient si elle était un garçon manqué, Anita Conti répondait « Non, je suis une femme réussie ». Et en pleine guerre, alors que la France est désormais occupée, Anita trouve le moyen de repartir en mer.
Après une année de transition, 41, Anita va saisir l'opportunité d'embarquer avec les chalutiers qui vont tenter de pêcher dans les mers chaudes, parce que les mers froides de l'Atlantique Nord sont fermées à cause de la guerre. Et donc il y a une trentaine de chalutiers qui vont échapper à la surveillance allemande et anglaise, à bord duquel Anita va passer 2 ans de bateau en bateau pour cartographier les zones de pêche au large de l'Afrique. Si c'est du sable, si c'est des roches, de quelle espèce sont habitées ces zones. Et c'est là où elle va rencontrer le continent africain, et au large du Sénégal et au large de la Mauritanie. Et ensuite de quoi, elle va aller un peu plus loin, elle va aller sur les zones humides du Sénégal et de la Guinée pour installer des pêcheries. Elle va travailler à ce moment-là avec Théodore Monod, qui travaille aussi sur le littoral africain. Et donc, ces travaux, elle va installer des pêcheries pendant une dizaine d'années. Alors d'abord, ce seront des pêcheries rattachées au gouvernement de...
d'Alger, à l'époque.
D'Alger, en 43. Et ensuite, pour le gouvernement de Guinée. Quand Anita est lâchée par le gouverneur de Guinée, elle crée avec Pâquerette de Canétin, sa grande camarade depuis des années, elle crée toutes les deux, en s'associant, une pêcherie qui va s'appeler les Pommes, les pêcheries d'outre-mer, et avec lesquelles elles vont tenter de répondre à leurs objectifs pour nourrir les populations locales et aussi éventuellement de pouvoir remonter le fruit de ces pêches sur la métropole.
Madame Anita Conti a été chargée depuis 1936 par l'Office scientifique des pêches maritimes et divers autres organismes de missions qui l'ont menée des mers polaires aux mers équatoriales. Elle revient actuellement d'Afrique noire, où elle a en particulier étudié les possibilités industrielles de la pêche aux requins. Madame Anita Conti va nous raconter ainsi sa dernière pêche ou chasse, on ne sait trop comment le qualifier, à la raie cornue.
Chasse ou pêche, nos auditeurs décideront. En attendant, voici d'abord le paysage. Imaginez une longue plage de sable très blanc, quelques palmiers, quelques chaumières à toit pointu. La saison des pluies a commencé. Le ravitaillement du village est plutôt réduit. Tout le monde a faim. Heureusement, ce matin, le guetteur annonce qu'il aperçoit les bélé-bélés. Bélé-bélé, cela veut dire gros, gros. Immédiatement, les pêcheurs sont en alerte. Ces bélé-bélés sont des céphaloptères, c'est-à-dire des raies, tout bonnement. Mais ce sont des raies géantes qui peuvent atteindre des poids de 2 à 3 000 kg pour une envergure de 7 à 10 mètres. On les nomme vulgairement raies cornues ou raies vaches. Ce matin, pour chasser la raie vache, nous embarquons dans une pirogue d'environ 6 mètres de long. Nous avons des harpons, de gros flotteurs amarrés sur des fils de baobab. Nous partons. Les pagayeurs piquent l'eau, silencieusement. Notre bateau glisse. Et à 3 encablures de nous, les raies vaches semblent jouer comme des ombres noires énormes. Bakary Sonko, harponneur, est debout à l'avant de notre pirogue, les regards fixés sur la mer. Il respire profondément, il s'étire, assouplit ses longs bras noirs et pousse des grognements légers. La pirogue accroît sa vitesse. Bakary écarte les pieds pour assurer son équilibre. Il regarde devant lui. Nulle parole n'est prononcée. Pourtant, les pagayeurs obéissent. À droite toutes ! Et d'un élan précis, le bras de Sonko projette le harpon à pleine volée. La bête est piquée, le fil de baobab se déroule, les pagayeurs accélèrent comme des machines. La pirogue bondit dans le sillage et de toutes mes forces, je retiens le déroulement de l'orin du flotteur. Un choc, est-ce la bête qui plonge? une masse d'eau en barque, nous sommes dedans jusqu'aux cuisses. On coule ? Non. Bakary, debout à la proue, est pareil à un équilibriste. Il pique, et moi, de toutes mes forces, je tiens les rênes de cet attelage monstrueux, suivi d'une bave rouge. Cela a duré quelques secondes. Et puis, c'est fini. La bête énorme n'a plus de sang, oui.
Elle va créer une pêcherie de requins avec tous les appareils modernes de l'époque pour faire une petite industrie artisanale pour créer des flacons d'huile de foie de requin. Parce qu'elle a découvert que certaines espèces sont très très riches en vitamines A et D lorsque les poissons, en certaines saisons, comme elle dit, sont amoureux ou pas. Et donc elle va créer des pêcheries pour utiliser ces foies de poissons pour en faire des vitamines. Et puis, il faut nourrir la France, donc créer des pêcheries pour sécher le poisson. Et donc, son travail est remarqué, mais malheureusement, il ne sera pas soutenu. Mais quand même, Cousteau va lui rendre visite en 1947.
En Afrique, en Guinée.
En Afrique, avec son Élie Monnier, qui ne s'appelle pas encore la Calypso. Et malheureusement, ce projet va tomber à l'eau. Et il y aura une comparaison à faire avec Karen Blixen, qui va perdre ses fermes africaines. Anita va perdre ses pêcheries. Alors, il y en a une qui sent, c'est l'arôme du café, il y en a une autre, c'est l'arôme du poisson séché. Voilà, bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais on a la même volonté de rendre service à une population et le même échec qui se retourne avec une grande perte financière et puis d'espoir. Quoi. Il y avait vraiment une volonté de rendre service et malheureusement, on replie ses bagages.
Si loin, si proche, tous les voyages sont sur RFI.
Anita Conti, alors je dirais qu'en tout premier, pour moi, elle m'inspire la liberté. Évidemment, puisque c'est une femme qui a traversé tout le XXe siècle et qui s'est affranchie dès son plus jeune âge de tous les codes, de tout ce qu'on attendait d'une femme. Elle est partie de son mariage, elle est partie sur des bateaux de marins où elle était la seule femme. Elle a voyagé, elle a pris des risques, elle a vécu comme une vie d'homme, mais de façon très féminine. Anita Conti, c'est l'engagement. L'engagement auprès des marins, auprès des humains en général, pour trouver des solutions pour nourrir la planète. C'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur d'arriver à la fois à aimer les gens en les nourrissant avec le poisson et en même temps en préservant l'océan, en préservant cette nature qui nous donne la vie. Et elle nous le dit, elle nous l'explique. De façon très profonde, Anita Conti, c'est la responsabilité par rapport à notre environnement.
Quand on suit le sillage d'Anita Conti, comme on le fait cette semaine, instantanément, un vent de liberté se met à souffler, charriant avec lui les mots « avant-garde » ou « engagement », mêlés aux intonations enjouées à jamais gravées dans les archives radio-françaises de celle que l'on surnommait « la dame de la mer ». Katel Muller, dessinatrice et co-autrice avec José-Louis Bocquet de la biographie dessinée d'Anita, vient de nous le dire. Son parcours a de quoi inspirer. Le genre d'inspiration profonde qu'on prend face à l'océan, histoire de se remettre les idées au clair. Et cette BD, ce roman graphique paru chez Casterman dans la collection clandestine de l'histoire, on en retrouve des planches, des illustrations, tout au long de l'exposition que consacrait il y a peu le musée des pêcheries de Fécamp à la grande océanographe. Dans cette expo, on retrouvait aussi des photographies en noir et blanc d'Anita, des clichés aux grains épais de cette vie rude sur les bateaux qu'elle a partagée avec les marins. Des images tirées du fonds Anita Conti, conservées par les archives de l'Orient depuis 2003, Nadège Sébille.
À l'Orient, il y a 35 000 clichés. Déjà, il fallait faire des choix, mais les photos qui sont dans cette partie sont les premiers, peut-être, portraits de marins en situation de pêche. Il y a des scènes assez intimes. On voit voilà, ce mousse qui dort dans sa bannette d'un sommeil bien mérité. Et on voit qu'au-dessus de lui, il y a un autre marin avec les pieds dans le vide. Enfin, il fallait chaque seconde compter en fait, pour se reposer. Et on a ces photos voilà, dans le carré des officiers et puis dans la cantine, entre guillemets, où enfin on est à l'abri, on peut manger, se restaurer avant en fait, d'y retourner et de revivre exactement la même chose.
Et sur ces photos, on voit qu'ils sont en format carré, surtout noir et blanc. Il y a une certaine distance, une pudeur, et en même temps, on sent, quand il y a cette adresse du regard, qu'il y a cette proximité qui se connaissent.
Oui, les marins disent que effectivement, il y avait une distance parce que ils n'osaient pas forcément aller vers elle. Cette dame, il y avait la dame qui était là, qui les prenait en photo. C'était inédit déjà d'avoir un photographe à bord. Donc
la dame.
La dame, exactement. Et la dame a aussi beaucoup de respect. Elle le montre. Elle a beaucoup de respect pour eux. Et puis Anita, elle fait comme eux. On se plaint pas qu'il fait froid, on se plaint pas qu'on a faim, on se plaint pas qu'on est mouillé et on se plaint pas qu'on ne peut pas se laver depuis 3 mois. Et du coup, il y a un respect vraiment réciproque pour ça, puisqu'elle arrive à vivre exactement comme eux, sans jamais rien demander. Pour elle, c'est documentaire, mais en fait, il suffit de regarder ces clichés, notamment celui qu'on a en face, qui est assez incroyable, où on a ce marin du Viking dans un océan de morue avec ses collègues en train de travailler, et lui lève la tête vers Anita. Ce cliché, il est absolument incroyable.
Parce qu'elle a dû sûrement se mettre tout en haut ou dans les hauts bancs pour pouvoir avoir une vue plongeante.
Mais ce cliché, je pense que ça résume bien tout son travail. C'est qu'il y a un cadrage et une vie incroyable, surtout. Elle-même ne se rendait pas vraiment compte de l'importance de ses photographies. Qu'elle conservait quasiment uniquement sur négatif, donc très peu visible. C'était pas le but, c'était une fois qu'elle avait publié l'article qui était commandé ou autre, ça retournait dans ses boîtes à archives, dans ses tiroirs en fait.
Pour traverser l'Atlantique en partant soit de Saint-Malo, soit de Fécamp, avec des conditions météorologiques favorables, il faut 7 à 8 jours. Alors là, le bateau est en pêche et il vient de pêcher un requin pèlerin.
Alors là, on arrive dans un espace tout bleu, consacré aux travailleurs de la mer. Il y a toutes ces photographies où on voit effectivement tous ces hommes. Et puis on voit la tenue aussi d'un Terre-Neuve ou d'un marin. Pour le coup, là, c'est le ciré jaune, c'est ça. C'est cette grande combinaison qui faisait qu'il pouvait peut-être un petit peu rester au sec. Un petit peu.
Pas beaucoup. On a essayé de restituer avec ce mannequin, avec les gants, avec les bottes, avec le tablier aussi, et le surroi qui est cette forme un peu de casquette de protection au niveau de la tête. Et ce mannequin répond aux photographies d'Anita Conti où l'on voit à la fois en fait, ces scènes sur le pont.
On voit les conditions de travail en fait.
C'est un travail à la chaîne. Les marins sont répartis en plusieurs rôles. On a le trancheur, le décolleur, on a aussi le laveur. Chacun a sa travée. Une fois le poisson débarqué, le poisson passe de main en main et progressivement découpé sur une méthode très rigoureuse jusqu'à la partie finale ou le salage, puisque sans un bon niveau aussi de sel, la morue ne peut pas être conservée ou cuit littéralement sous la tonne de sel que l'on déverse après sur elle. Donc le saleur avait une place très importante. On a aussi des photographies de nuit avec ses spots, ses éclairages, pour montrer que le travail était incessant, de jour comme de nuit, contrairement à l'époque des voiliers, où on pouvait pêcher que de jour. Le travail est constant à bord des chalutiers.
Le bois rosé a repris sa lente et lourde marche. C'est son troisième trait. Il remorque son chalut et poursuit la coupe du banc Hamilton cap au nord-nord-est. Sur le pont, toute l'équipe libérée des manœuvres de filage s'élance vers le travail du poisson. Agir, c'est vivre, et ici, vivre, c'est tuer. À travers le vent, passent les grincements d'affûtage et brillent des lignes d'acier. Les couteaux sont dehors. L'équipe prend son roulement. Ce n'est plus une bordée de pêcheurs, c'est une chaîne de spécialistes. La morue embarquée à tribord, avec sa puissante silhouette de vorace, sa tête, ses yeux et sa large gueule, ressortira côté bâbord, sous les aspects d'une plaque de viande blanche. C'est ce travail en série qui s'est inauguré cette nuit. Les hommes commencent à vivre sous le ciel, bottes plongées dans la masse du poisson ou dans les tripes, manches gluantes de mucus et mains baignées de ce mucus. C'est le sangouin. L'indéfinissable bouilli qui s'épaissira de l'huile des foies et de débris écrasés sous les bottes et s'en ira ainsi, éparpillé, brassé par l'air et l'eau. Son ombre terne assourdira l'éclat des sirènes neufs, elle graissera les cheveux et marquera les visages. Cette nuit, le sangouin est encore léger. Son odeur intense et fraîche, c'est l'ardente odeur des premiers soirs de tuerie. Anita Conti, racleur d'océan.
Quand racleur d'océan sort, alors c'est quand même, moi je me suis toujours posé la question, c'est quand même un titre qui est assez ironique, c'est quand même assez péjoratif quand on y pense, mais c'est un ouvrage qui est très bien reçu par les marins et leurs familles. D'ailleurs, il y a des témoignages, voilà, de familles de Terre-Neuve qui disent qu'ils ont compris ce que leur mari, leur fils, leur père vivaient en lisant Racleur d'océan, parce que bon, c'était, comme on dit chez nous, des taiseux, hein, on raconte pas trop ce qu'on vit sur place, c'est très dur, c'est même épouvantable quand on y réfléchit bien. Et puis en lisant Racleur d'océan, voilà, ils se sont rendus compte. Et il y a une femme comme ça de Terre-Neuve qui s'était fait faire une dédicace par Anita Conti en 53. Elle vient en décembre 53 dédicacer à Fécamp Racleur d'océan. Donc Anita lui fait une dédicace donc à son mari, Monsieur Bertin, qui était donc Terre-Neuve à bord. Et il y a une petite mention de Madame Bertin, parce qu'elle a beaucoup entendu parler d'elle sur le bateau. Bon. Et puis, 40 ans plus tard, quand Anita revient à Fécamp dans ses dernières années, Racleur d'océan est réédité. Et elle refait des dédicaces. Et du coup, les enfants de Madame Bertin reviennent demander une dédicace à Anita Conti parce qu'elle avait perdu son exemplaire de 53. Elle disait toujours qu'elle s'était fait voler parce que pour elle c'était tellement précieux que c'était forcément quelqu'un qui l'avait volé, elle ne pouvait pas l'avoir perdu. Puis quand elle est décédée il y a quelques années, on a retrouvé l'exemplaire de 53 qui avait glissé derrière le tiroir de sa table de chevet. En fait, il était là pendant tout ce temps. Mais ça montre bien l'importance qu'un livre avait, parce que du coup son mari est mentionné plusieurs fois dans Racleur d'océan, et lui était décédé depuis plus longtemps. Mais c'était vraiment très important, c'est comme une relique. Et quelque part, Anita, alors elle dénonce la surpêche, le gaspillage, mais malgré tout elle a ce regard sociologique, ethnologique en fait, où elle a du respect pour ce qu'ils vivent plusieurs fois par an, ces campagnes qui durent plusieurs fois. Ils partent des mois et des mois sans voir leur famille, sans jamais... Enfin, je pense que pendant 5 mois, ils sont complètement gelés, trempés, à manger toujours la même chose et à dormir que quelques heures par jour. Donc elle le sait, ça. Elle le vit elle-même aussi plusieurs fois. Elle embarque plusieurs fois par an pendant toute sa vie. Donc pour elle, c'est aussi son quotidien. Là, disons que le grand public... enfin, la connaît plus avec cet ouvrage qui reçoit le prix des Vikings en 54, la première fois pour une femme aussi, alors qu'il était en compétition avec Le Monde du silence de Cousteau. Et je pense qu'à ce moment-là, oui, elle essaye d'en jouer, de se dire, c'est mon moment, tout ce que je veux faire passer. C'est un peu maintenant ou jamais. Et oui, il y a des anecdotes dans la presse nationale. Elle fait un Paris-Nice en train où son boa s'échappe. Alors peut-être entre guillemets, elle l'a peut-être fait exprès. Donc c'était aussi un moyen peut-être de ne pas se faire oublier. Ah oui, c'est vrai, Anita Conti, celle qui avait son boa, je m'en souviens, j'ai vu un reportage sur elle où j'ai lu quelque chose dans la presse. Mais le but, c'est de faire passer son message.
Sur les océans.
Sur l'état des océans et de la population de poissons qui chute drastiquement à partir des années 50.
En vérité, on se bat toujours pour ce qui représente une richesse. Mais cette richesse, quand elle est vivante, on peut l'atteindre, on peut la diminuer, on peut la réduire, on peut aussi la respecter. Et pêcher au milieu des bancs de poissons sans annuler la densité qui les constitue. Il n'y a pas de raison de prendre tout. Quand vous vous trouvez au milieu des richesses naturelles, eh bien, il faut n'en prendre qu'une part. Simplement que l'homme ne se croit pas, parce qu'il n'a que deux pieds, eh bien, qu'il ne se croit pas le roi du monde. Nous avons peut-être un esprit, ben, tâchons d'en faire quelque chose qui ne soit pas uniquement destructeur.
Alors là, on arrive à une photographie qui est, à mon sens, aussi magistrale et qui exprime bien cette volonté d'alerter sur cette surexploitation, sur ce pillage, ce gaspillage des océans. C'est une photographie où l'on voit des marins très fiers, le sourire aux lèvres, l'un qui tient une morue et l'autre un rascasse de Norvège ou un sébaste. Et l'on voit la différence entre la morue, qui est le poisson qu'il souhaite recueillir, et le sébaste de Norvège, qui est un poisson du fond des océans, qui a été remonté dans le filet et qui n'a pas survécu à la pression, qui sera finalement après souvent rejeté à la mer, d'où cette alerte et ce cri que lance Anita Conti contre le gaspillage des océans.
Vous dites ce cri, il y a cette grande phrase qui est écrite sur le mur, « Il faut révolutionner nos méthodes de pêche ». Et donc c'est ce que nous offre finalement la suite de la section.
On a voulu créer une forme de transition vers un volet qui détaille différents projets qu'elle a imaginés dans les années 50, 60, 70. D'un côté, on a un dessin qu'elle a réalisé d'un engin de pêche sélectif,
qui est là, qui est encadré, qui ressemble, alors on dirait presque une image de science-fiction, comme un aspirateur à poissons, un genre de grand cornet qui vient aspirer et sélectionner les poissons, pour ne pas prendre les petits.
C'est exactement cela, c'est une forme d'aspirateur sous-marin, un projet qu'elle a imaginé, qui n'a pas vu le jour, et qui visait à sélectionner les poissons, selon après en effet leur taille, notamment, pour ne pas remonter tout ce qu'elle appelait les faux poissons, qui était remonté mort sur le pont des chalutiers et rejeté ensuite à la mer.
Alors ça, c'est ce qu'elle appelle son aspirateur sous-marin. Donc c'est l'époque aussi où Cousteau développe les sous-marins. Cousteau l'invite à plonger à 300 mètres de fond et elle découvre les fonds océaniques. Et puis elle se dit que puisqu'on ne peut pas changer les habitudes alimentaires, puisqu'on ne peut pas éviter le gaspillage, puisque tout le monde va rejeter, on peut peut-être pêcher plus intelligemment. Donc, au début des années 60, elle réfléchit avec l'aide financière de l'Institut océanographique de Monaco, donc qui est géré par Cousteau, à inventer ce chalut qui serait intelligent, donc où il y aurait un humain qui serait entre deux eaux dans cette espèce de gros aspirateur sous-marin. On voit qu'à un moment donné, quelqu'un a lui demandé comment elle allait l'appeler. Et on a cette liste.
Oui, on voit, il y a ça. Le rapace.
Donc la pompe, le glouton, la saucisse, le gobeur, le baffreur, le ventru, le vorace, l'entonnoir. Et je pense qu'elle-même, en couchant le nom de cet instrument de mort en fait, sur le papier, doit se dire « mais en fait, si je dépose ce brevet, il y a très peu d'armateurs qui pourront se permettre d'avoir une chose aussi technologique en fait. Mais ceux qui pourront en auront plusieurs et chasseront plus et chasseront mieux. » Mais ça n'empêchera pas d'avoir des petits armements qui continueront de racler les océans. Et donc, elle abandonne l'idée. Et dès 62, parce qu'elle est toujours foisonnante d'idées, elle veut vraiment compter et elle essaye de trouver vraiment une solution. Ça lui tient à cœur. Elle, Et elle se dit, bon, on ne peut pas continuer à chasser. En fait, la solution, ben, en fait, c'est de produire.
C'est d'élever.
Voilà, élever les cabillauds en pleine mer. Et donc, elle se tourne, elle est une des pionnières de l'aquaculture. Donc, dès 62, elle est en mer du Nord, elle a trouvé des financements et elle essaye voilà, de faire vivre des générations de cabillauds, de l'œuf jusqu'aux poissons qui pourraient se reproduire, et ça marche. Et malheureusement, c'est vraiment un coup du sort, c'est qu'on a une des premières marées noires de l'histoire, pile à l'endroit de ces pêcheries en mer du Nord. Donc elle perd tout. On a des photos ici de marées noires, mais en France, où elle s'est beaucoup investie après auprès des habitants, bah, notamment bretons. Là, on a un reportage vraiment sur la marée noire du Torrey Canyon en 67. Donc, c'est ce qu'on a mis dans l'exposition. Et ça aussi, ça lui a beaucoup tenu à cœur dans les années 60, puis 70. Et on voit que, pas que elle, puisque c'est aussi la grande époque, on a la création voilà, de Greenpeace, de Sea Shepherd, etc. En parallèle. C'est-à-dire qu'on commence aussi à s'emparer du sujet en dehors d'elle, quoi.
Quel serait le sillage si un sillage résistait en mer, le sillage d'Anita Conti? C'est une voix, c'est des mots, une vision du monde maritime à une époque où on ne voyait que la surface. Une perception que la mer n'est pas est fragile. C'est un milieu qui mérite protection. Anita a anticipé vraiment beaucoup de choses sur les problèmes de la surexploitation des océans et de la pollution dès les années 30 et les années 60. Et puis ces récits, ces témoignages, ces mots qui sont très visuels aussi. Elle décrit des choses techniques très complexes avec beaucoup de simplicité et puis une force, un souffle. Et elle avait cette façon de parler aussi, de penser qui correspondait tout à fait à cette image de vagues qui se succèdent comme ça, comme une sorte de musique intérieure qui lui correspondait parfaitement. Sur des flots immensément pareils et sans fin dissemblables, vers les horizons qui reculent, vers les étoiles qui vont naître, vers l'infini du bleu qui va noircir, un navire emporté jusqu'au bord du ciel, de ses parois de fer, il déchire les eaux, et moi, en lui, prisonnière.
C'est un soir de tempête, dans la nuit de Noël 1997, qu'Anita Conti s'est éteinte, à l'âge de 98 ans. Quelques mois après, selon ses volontés, ses cendres seront dispersées en haute mer depuis un chalutier escorté de plusieurs bateaux, de pêche, de plaisance ou de marine pour son dernier voyage. Merci à Laurent Géraud-Conti et à l'équipe des Pêcheries de Fécamp pour leur accueil. Merci à la Sonothèque de RFI pour leurs archives originales et à l'INA. Merci également aux éditions Payot, chez qui on retrouve les récits et ouvrages d'Anita. Merci enfin à Lucie Bouteloup et Caroline Fillette. Laure Allary, Céline Velay-Mazurel, on vous salue, auditeurs et auditrices si loin si proches. Rendez-vous la semaine prochaine sur l'antenne de RFI pour d'autres voyages et à tout moment en podcast.